Bonjour à toutes et à tous, il est midi 30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Nicolas Ballu. Bonjour Nicolas.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. L'Open Arms, finalement, en route vers l'Italie. La justice lui permet de rentrer dans les eaux italiennes, mais le bras de fer est loin d'être terminé avec Matteo Salvini. Le ministre de l'Intérieur vient de donner une conférence de presse. Il compte toujours s'opposer aux ONG. Nous rejoindrons sur place Antonino Gallofaro. Nous irons à Hong Kong également. Des forces militaires chinoises se massent à Shenzhen, mais une intervention de l'armée face aux manifestants aurait des conséquences économiques très négatives pour Pékin. C'est ce que nous dira Simon Le Plâtre. Les Pays-Bas déchaînés contre les pêcheurs français, la pêche électrique est interdite en France depuis hier. Une technique particulièrement rentable et très utilisée par les pêcheurs néerlandais. L'hommage fait aux soldats africains du débarquement. Emmanuel Macron commémorait ce matin le débarquement en Provence. C'est aussi la rentrée pour le chef de l'État, nous dira Ilan Malka. Le programme de la Grande Table, Maëlys.
Eh bien, nous allons parler du photographe Henri Cartier-Bresson à l'occasion de l'exposition Pérégrination en Europe. Puis nous ferons le portrait de la chanteuse Laure Briard. À tout à l'heure.
L'Open Arms fait donc route vers Lampedusa. Hier, la justice a autorisé le navire humanitaire espagnol à entrer dans les eaux italiennes. L'Open Arms est confronté à une situation exceptionnellement grave, dit le juge administratif italien. Il doit recevoir une assistance immédiate pour les personnes sauvées qui en ont le plus besoin. Fin de citation. Matteo Salvini se voit désavoué. Ce matin, le ministre de l'Intérieur publiait un bilan de son activité. Pour lui, peu importe ce que dit la justice, il va continuer sa guerre contre les ONG, Antonino Gallofaro.
Eh oui, limiter les arrivées de migrants en Italie est toujours son principal argument de campagne. Alors le chef de la Ligue veut garder les ports fermés, même s'il est désormais isolé. Il a cette fois officiellement perdu le soutien de son gouvernement, qui a toujours malgré tout été réticent à une politique aussi radicale. Il faut rappeler que malgré la crise politique en cours, et donc un gouvernement bloqué, Matteo Salvini reste le ministre de l'Intérieur. Donc sur le nouveau décret d'interdiction d'entrée de l'Open Arms, le navire qui se trouve au large de Lampedusa, il a besoin aussi de la signature de la ministre de la Défense. Mais cette fois, Elisabetta Trenta refuse de signer. Elle ne voit dans le cadre de l'organisation espagnole aucune raison d'ordre et de sécurité publique qui motiverait une interdiction d'entrée dans un port italien. Or, c'est bien une guerre politique qui a lieu et non humanitaire, car la situation aujourd'hui de l'Open Arms est identique à tous les autres navires bloqués cette année écoulée. Des migrants sauvés en Méditerranée, la recherche ensuite d'un port sûr le plus proche, donc italien, mais fermé par ce gouvernement. Et la guerre contre Salvini est aussi donc judiciaire. La justice sicilienne a ouvert une enquête pour abus de pouvoir. Et hier, un tribunal de Rome avait déjà bloqué un premier décret d'interdiction d'entrée contre l'ONG espagnole, comme réclamé par le chef de la Ligue.
Merci Antonino Gallofaro pour France Culture. Les États-Unis demandent à saisir le pétrolier iranien immobilisé à Gibraltar. Les autorités retiennent le cargo depuis un mois. Le Grace One est soupçonné de transporter du pétrole vers la Syrie en violation d'un embargo européen. La Cour suprême du territoire britannique devait décider ce matin de prolonger ou de cesser l'immobilisation du Grace One. La Cour suprême qui a reporté sa séance au milieu de l'après-midi. À Hong Kong, les manifestations se succèdent et les menaces chinoises également. Par deux fois cette semaine, les autorités de Pékin ont qualifié certains actes des manifestants de quasi-terrorisme. Certaines manifestations prennent un tour plus violent. Des vidéos des forces armées chinoises massées à Shenzhen en face de Hong Kong sont diffusées par les médias chinois. La menace est donc à peine voilée. Donald Trump, lui, s'est immiscé dans la crise. Le président américain a lié la conclusion d'un accord commercial avec la Chine avec un dénouement humain, je cite, à la crise à Hong Kong. Une perte d'autonomie de Hong Kong mettrait en péril le statut préférentiel dont jouit Hong Kong vis-à-vis des États-Unis. Simon Le Plâtre, une intervention militaire chinoise aurait de graves conséquences économiques pour Pékin.
C'est le statut spécial de Hong Kong qui a fait la fortune de son économie comme porte d'entrée vers la Chine communiste. Aujourd'hui, à l'inverse, c'est le rôle particulier de son économie qui pourrait protéger Hong Kong. Alors qu'un mouvement de protestation contre une loi d'extradition vers la Chine se radicalise face au mutisme du pouvoir, la question d'une intervention militaire chinoise est de plus en plus posée. Mais en réalité, une intervention militaire est loin d'être évidente. Les conséquences en termes d'image seraient désastreuses, mais ce sont surtout les conséquences économiques d'une telle intervention qui seraient graves. Si Hong Kong ne représente que 3% du PIB de la Chine, le territoire garde un rôle essentiel de pont entre la Chine et le reste du monde. C'est surtout le cas pour le secteur financier, toujours très contrôlé en Chine. Ainsi, la plupart plupart des entreprises chinoises qui empruntent des dollars américains le font à Hong Kong. Si les troupes chinoises intervenaient à Hong Kong, ce serait la fin du statut spécial de Hong Kong et des privilèges qui en découlent, comme par exemple son statut plus favorable que la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Bref, si Hong Kong perdait ses libertés, la Chine perdrait aussi un précieux pont vers l'Occident dont elle a bien besoin en pleine guerre économique avec les États-Unis.
La Corée du Sud fête son indépendance et manifeste contre la politique commerciale du Japon. Des manifestations qui se succèdent et qui s'ajoutent aux campagnes de boycott des produits nippons. C'est dans ce contexte qu'une Coréenne, victime de travail forcé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, décide de raconter publiquement son histoire. Un témoignage qui survient alors que la question des réparations pour les centaines de milliers de ces Coréens victimes de travail forcé pour des entreprises nippones est au cœur de la guerre commerciale qui s'aggrave entre la Corée du Sud et le Japon. À Séoul, Frédéric Orjadias.
La sud-coréenne Kim Jong-ju, 87 ans, est en colère. À l'âge de 14 ans, elle a été envoyée travailler de force dans une usine d'acier au Japon. Elle raconte son expérience devant toute la presse étrangère réunie à Séoul.
Quand ma sœur et moi avons été envoyés au Japon, on nous avait promis que nous irions au collège et au lycée. Mais en fait, j'ai été envoyée travailler dans l'usine d'une entreprise appelée Fukukashi. Même si j'étais toute petite, je devais opérer une machine gigantesque. J'avais tellement faim, tout le temps. J'étais une esclave. La nuit, nous avions tellement peur des bombardements aériens que nous gardions nos chaussures pour être prêtes à fuir si nécessaire. Mais aujourd'hui, le premier ministre japonais, Shinzo Abe, refuse de reconnaître que nous étions des esclaves. J'exige ses excuses. J'exige aussi des réparations.
Tokyo considère que cette question des réparations a déjà été réglée par le traité de normalisation signé avec Séoul en 1965. Mais l'année dernière, la Cour suprême coréenne a condamné des entreprises japonaises à verser des indemnités aux victimes. Le Japon a répondu cet été par des représailles économiques. Le timing de la conférence de presse de Kim Jong-ju n'a donc pas été choisi au hasard. Alors que le conflit commercial avec Tokyo s'aggrave de jour en jour, les Coréens, victimes de travail forcé, rappellent qu'ils ne doivent pas être oubliés. Ils veulent montrer que l'histoire est de leur côté. Ils cherchent ainsi à faire pression sur le gouvernement de Shinzo Abe.
Frédéric Ojardias de RFI pour France Culture. Le président sud-coréen a adopté un ton plus conciliant il y a quelques heures. Si le Japon choisit le chemin du dialogue et de la coopération, nous lui tendrons bien volontiers la main. Le Japon qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nouvel empereur Naruhito exprime de profonds remords, je cite, pour les exactions de l'Empire. L'enquête sur la mort de Jeffrey Epstein aux États-Unis, l'autopsie du millionnaire mort ce week-end en détention à Manhattan révèle plusieurs fractures au niveau du cou, selon le Washington Post. Les fractures sont conformes à une pendaison ou une strangulation. L'homme d'affaires américain devait être jugé pour trafic sexuel de mineurs. La pêche électrique est désormais interdite dans les eaux françaises. La méthode de pêche est très décriée par les organisations de défense de l'environnement, par les pêcheurs français eux-mêmes également. Cette technique mettrait en danger l'écosystème. Elle sera interdite par l'Union européenne en 2021. La France a donc pris de l'avance, mais la pilule ne passe pas du tout aux Pays-Bas. Les pêcheurs néerlandais pratiquent la pêche électrique à grande échelle en mer du Nord. Notre correspondant à La Haye, Antoine Moutou.
La nouvelle de l'interdiction de la pêche électrique en France est abondamment relayée depuis hier soir dans les médias nationaux. Les Néerlandais suivent de près le feuilleton qui oppose les pêcheurs de leur pays à leurs confrères français et aux écologistes. L'hiver dernier, la décision de l'Union européenne d'interdire complètement cette méthode de pêche avait fait beaucoup de mécontents ici et provoqué la colère de Thierry Baudet, chef du parti nationaliste Forum pour la démocratie.
C'est une méthode de pêche extrêmement efficace et innovante qui est interdite par l'Union européenne. Et ça juste parce que l'Europe du Sud n'arrive pas à nous concurrencer. C'est ridicule.
Quand Thierry Baudet dit Europe du Sud, il vise en fait la France et les pêcheurs français. Ces derniers sont devenus la bête noire d'une partie de la droite et de l'extrême droite néerlandaise. En février dernier, en direct à la radio publique, l'eurodéputée conservatrice Annie Schreyer-Pyrick était même allée jusqu'à les insulter.
J'ai moi-même aidé à faire en sorte que beaucoup d'argent soit débloqué pour les pauvres navires de pêche français. Mais entre nous, les Français sont feignants comme pas possible. Ils étaient encore là dans leur vieux petit bateau à pêcher juste un petit peu comme ça.
Pour les partisans néerlandais de la pêche électrique, son interdiction à venir est une catastrophe pour l'économie nationale et la conséquence, disent-ils, de la jalousie des Français.
Le reportage à la haie d'Antoine Moutou. Le 15 août 1944, il y a exactement 75 ans, 450 000 soldats débarquaient sur le sol de Provence. Plus de la moitié étaient des soldats de la première armée française et près des trois quarts étaient des soldats africains. C'est le début de l'opération Dragoon qui doit permettre de libérer le sud de la France et de remonter le long du Rhône. Les héros africains du débarquement en Provence n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. Cet hommage est d'Emmanuel Macron ce matin lors des commémorations aux côtés de ses homologues guinéens et ivoiriens Alpha Condé et Alassane Ouattara. Ce rendez-vous à la nécropole de Boulouris, Ilan Malka, est aussi pour le chef de l'État le signal de sa rentrée politique.
Oui, c'était le discours d'un chef de l'État qui cherche à retrouver de la hauteur et à se placer en réconciliateur, ceci en jouant plusieurs cartes. Alors tout d'abord celle de la reconnaissance de la France envers ses soldats très majoritairement africains qui ont participé à ce débarquement du 15 août 1944.
Ils sont des milliers à s'être sacrifiés pour défendre une terre lointaine. Une terre souvent inconnue. Et pourtant, qui d'entre nous se souvient aujourd'hui de leur nom, de leur visage? Honorés à juste titre par leurs camarades de l'époque, ces combattants africains, pendant nombre de décennies, n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d'Afrique en elle.
Si Emmanuel Macron peut retrouver de la hauteur, c'est aussi, il le sait, à travers les élus locaux et les territoires qu'il avait négligés en début de mandat. Il a cherché justement à les associer à son hommage.
Je lance aujourd'hui un appel au maire de France pour qu'il fasse vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers.
Et cette page de l'histoire est aussi, pour Emmanuel Macron, l'occasion de donner une vision d'un pays qui a su, dans le passé, se réunir au-delà des différences.
L'armée B entrait en scène. Des milliers d'hommes, aux parcours si divers et aux destinées si différentes, dans la guerre comme dans la vie, dans une fraternité d'armes et dans une fraternité d'âmes, partageaient un même idéal et un même courage.
Cette pré-rentrée du chef de l'État va se poursuivre donc lundi prochain avec la venue à Brégançon du président russe Vladimir Poutine.
Emmanuel Macron qui va également accueillir les chefs d'État du G7 à la fin de la semaine prochaine. Merci Ilan Malka. Il y a deux jours, les pompiers alertaient sur un risque d'incendie très élevé autour du bassin méditerranéen pendant le pont du 15 août. Eh bien, cette mise en garde se vérifie en France. Dans l'Aude, près de 1000 hectares sont touchés par les flammes au sud-est de Carcassonne. Plus de 500 pompiers sont mobilisés, et deux canadairs. Emeline Ferry, vous êtes sur place et la situation est compliquée à contrôler.
Oui, vous le disiez, la situation est toujours compliquée, même s'il commence à pleuvoir un petit peu, il y a quelques gouttes, mais il reste encore beaucoup de travail pour les pompiers. Il reste plusieurs points chauds qu'ils doivent encore traiter en lisière et à l'avant du feu. L'objectif aujourd'hui, c'est de maîtriser les reprises de feu avant que le vent se lève dans l'après-midi. Et ça, c'est difficile car la zone est pentue, difficile d'accès. Le massif forestier est très dense. Alors, au poste de commandement des pompiers et dans les villages alentours, les 500 pompiers mobilisés s'activent. Les allers-retours des camions et des canadaires ne s'arrêtent pas. Là, actuellement, je suis dans le petit village de Pradelles-en-Val où 14 personnes ont été mises en sécurité hier après-midi. Elles ont été évacuées du domaine où elles étaient. C'était le plus proche du départ de feu, mais elles ont pu regagner leur maison ensuite. Les pompiers veulent se montrer rassurants. Ils le répètent, aucune habitation n'est menacée pour l'instant. Mais dans le village où je suis, les habitants sont quand même inquiets, impuissants. J'en ai rencontré quelques-uns, les bras croisés devant leur maison, en train de regarder la colline en face d'eux. Janine, par exemple, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et depuis ce matin, depuis le lever du jour, elle observe le balai des canadaires, la colline en face d'elle. On voit la fumée, les flammes, le paysage calciné. Et elle m'a même confié qu'elle avait déjà préparé sa valise si jamais il fallait évacuer en urgence.
Merci Emeline Ferrier. Toujours sur le front des incendies en Grèce, 400 pompiers tentent toujours de venir à bout du feu dans de l'incendie de l'île d'Eubée. Les autorités déplorent une énorme catastrophe écologique. Le météo, le temps aujourd'hui sera très variable sur le centre et le sud-ouest. Quelques pluies sont attendues, ce ne sera pas le cas dans le sud-est. C'est un 15 août sous le soleil qui se déroule au nord de la Seine et sur le nord-est. Des nuages avec quelques timides éclaircies. Les températures maximales vont de 20 à 25 degrés sur la moitié nord, et de 23 à 27 degrés dans le sud-ouest. Et jusqu'à 34 degrés dans le sud-est. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue et elle a été réalisée par Jean-Guy Lainmège.